Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Billy Yvon Lutumba.
Parvenir à éradiquer la corruption en RDC, en tout cas, le gouvernement met les paquets doubles avec l'ouverture ce mardi des états généraux de lutte contre ce phénomène. Ces assises devront aboutir à des pistes de réforme des instruments juridiques déjà en application. Nous revenons ce soir encore sur ce drame survenu dimanche dans le territoire de Mitwaba dans la province du Haut-Katanga. Une cinquantaine des passagers sont introuvables après qu'un camion avec en plus des marchandises se soit renversé dans la rivière Kalumengongo. Comme invité ce soir, Colette Ekia, depuis Mbandaka, nous parle de quelques remèdes face au nombre élevé des cas de malnutrition. Elle est vice-présidente du réseau national des associations des femmes rurales. Tout plaisir est notre de vous savoir à suivre Radio Kapi pour votre information. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Diagnostiquer l'état des lieux de la corruption et se projeter pour un meilleur avenir, c'est la raison de l'organisation des états généraux de la lutte contre la corruption en RDC depuis ce mardi à Kinshasa. Le Premier ministre qui a procédé à l'ouverture de ses assises a interpellé les magistrats et les inspecteurs de la police judiciaire des parquets de bien faire leur travail de répression contre ce fléau. Reportage de Jeff Ngoy.
Il faut évaluer la lutte contre la corruption à travers son cadre juridique, relever les défis et trouver des pistes de solutions. Selon le Premier ministre Samalou Kondé, l'apport des magistrats est très attendu pour améliorer le climat des affaires.
C'est ici l'occasion d'attirer l'attention singulièrement des magistrats et agents de police judiciaire. Ils doivent pleinement jouer leur rôle. La République n'accordera aucun pardon à ceux d'entre eux qui auront facilité couvert tout acte de corruption ou de détournement des deniers publics.
Pour Moutombo, ministre d'État en charge de la justice, malgré de nombreux instruments juridiques, le mal est toujours là.
En plus des instruments juridiques internationaux et régionaux de lutte contre la corruption auxquels la RDC a adhéré, plusieurs institutions ont été mises en place pour lutter contre ce fléau. Malgré cela, ce phénomène reste à ses jours présent.
Qu'attendre de ces assises? Lucien Toulou, team gouvernance du PNUD, qui appuie financièrement et techniquement ce forum, explique.
Examiner le cadre juridique et institutionnel qui permet de lutter contre la corruption et dégager un certain nombre de pistes de réformes qui permettraient à la lutte contre la corruption d'être beaucoup plus efficace.
La question des réformes et harmonisation des textes et mutualisation des efforts des institutions sont au menu des discussions.
La grève des commerçants n'aura duré qu'une demi-journée dans la ville de Kalemie au Tanganyika. Après une paralysie des activités aujourd'hui matin, le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, demande à tous les opérateurs économiques, grossistes et détaillants de reprendre du service. Parmi les avancées, André Yumba explique que la province a décidé de surseoir à d'autres taxes, dont celle de l'hygiène aux frontières. Dans la matinée, seules les pharmacies et les vendeurs des produits alimentaires étaient autorisés à exercer. Les commerçants dénonçaient la multiplicité des taxes imposées sur leurs produits, tant pour les grossistes que les détaillants. Écoutez le président provincial de la FEC à l'issue de la réunion avec le ministre provincial de l'Intérieur qui assure l'intérim du gouverneur de province en mission. André Yumba est au micro de Jean-Didier Ogobani.
La grève est levée. À partir de maintenant, la grève est levée. Nous allons continuer avec le pourparlers. Jusqu'à demain, nous allons clôturer la situation. Il y a des taxes qui nous dépassent ici à Kalemie. Il y a beaucoup de taxes et encore très chères. Alors, on a essayé un peu de changer. Ils nous ont promis de surseoir d'autres taxes. D'ici demain, nous allons clôturer la réunion. Normalement, les taxes de l'hygiène aux frontières. L'hygiène aux frontières ne sort pas dans le bulletin de liquidation. Alors lui impose, il dit seulement il faut que vous puissiez payer. Et nous disons, nous n'allons pas payer, c'est une taxe qui n'apparaît pas sur le bulletin de liquidation.
Et au Kassai Oriental, hausse des prix du litre de carburant en Bujimai. Le litre d'essence qui se vendait la semaine dernière à 3500 francs congolais coûte actuellement 4000 voire 4300 francs. Conséquence, le prix des plusieurs trajets a doublé. À la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, on parle de la note circulaire du ministre interdisant le transport dans les bidons ou fûts des produits pétroliers, une des pratiques la plus utilisée par les importateurs du Kassai Oriental. Des explications d'Esther Nalafina.
Il est actuellement difficile d'effectuer une course en ville, même sur une courte distance, en payant le tarif de la semaine dernière. Le prix de tous les trajets ont doublé, comme témoigne cette ménagère Pelagie Kisumbule.
On souffre pour le transport, même sur une courte distance. On demande 1 500 ou 2000 francs. Ils disent qu'il y a hausse de prix de carburant. Ensuite, ils payent beaucoup d'argent pour les documents de bord.
Les motocyclistes affirment qu'ils veulent à leur tour faire face à la hausse de prix du litre de carburant.
C'était à 2900 au niveau de Shell. Maintenant, c'est 4200 francs.
Dominique Ilunga, directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, évoque la note circulaire du ministre des Hydrocarbures.
La SNCC ne transporte pas de produits pétroliers suite à la mesure du ministre national interdisant le transport de produits pétroliers dans le fût et bidon. La zone du Kassai, pour le moment, n'était pas concernée.
Signalons que le nombre des camions-citernes habilités à assurer les transports de carburant de Mweneditu en Mbujimayi sont moins nombreux, une situation qui risque d'occasionner les frais de pénalité à payer régulièrement à la SNCC par les importateurs de produits pétroliers suite au chômage des wagons-citernes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Un accident de circulation s'est produit dimanche dernier dans le territoire de Mitwaba, dans la province du Haut-Katanga. Un camion transportant des marchandises et une cinquantaine de passagers s'est renversé dans la rivière Kalumengongo. Jusqu'à présent, par manque de moyens, les recherches n'ont pas encore commencé. D'autres sources renseignent qu'il y a un seul rescapé qui est dans un centre de santé de la place. Les détails avec Jean Gandou.
Plusieurs sources renseignent que ce camion venait de Manono à destination de Lubumbashi passant par le territoire de Mitwaba. Il avait à son bord une cinquantaine de passagers parmi lesquels les adultes et les enfants. Ce véhicule transportait aussi de marchandises. Arrivé au village Tambo, à 65 km de Mitwaba centre, aux environs de 23 heures, le chauffeur a raté de s'engager sur le pont et s'est renversé et le camion se trouve à plus de 100 mètres de profondeur. Jusqu'à présent, ce véhicule et tous les passagers sont sous l'eau. Information confirmée aussi par l'administrateur du territoire de Mitwaba. D'après ce dernier, faute des moyens, les recherches n'ont pas encore commencé. Il faut prendre langue avec les plongeurs afin de leur remettre le nécessaire pour qu'ils se mettent au travail. Entre-temps, les autorités territoriales attendent aussi d'une entreprise minière de la place un engin pour tirer le camion des eaux. Et aussi, elles déplorent le non-respect par les conducteurs des grands camions de la mesure portant interdiction de circuler la nuit sur cet axe jugé dangereux. Par rapport au manque de moyens, un rapport a été fait au gouvernement provincial du Haut-Katanga pour qu'une intervention urgente soit organisée afin d'entamer les recherches pour retrouver les personnes disparues. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Parlons santé au Kwilu. Plus de 165 décès des enfants dus à l'anémie causée par le paludisme sont enregistrés dans la zone de santé de Mukedi en territoire de Gungu, cela depuis le début du mois de septembre dernier. Le médecin chef de cette zone de santé qui l'a dit indique que la situation commence à être maîtrisée grâce à l'appui de la division provinciale de la santé DPS Kwilu. Cependant, Dr Abraham Mundedi souligne quelques difficultés pour faire face à cette situation, notamment l'insuffisance des intrants de prise en charge et le manque des moyens de transport pour atteindre les aires de santé touchées. Il sollicite ainsi l'intervention des autorités sanitaires. Il a été joint au téléphone par Irène Bauma.
À notre niveau, il y a les intrants avec lesquels nous luttons contre cette maladie. Mais en principe, nous devons être encore, on doit encore nous renforcer en ces intrants-là. Parce que vous savez, la situation est sortie de l'ordinaire. Maintenant, on doit vraiment être réapprovisionné pour qu'on fasse face. Pas seulement les intrants PNLP, comme les enfants meurent dans les tableaux d'anémie, si on peut encore nous renforcer avec les poches de sang pour les transfusions et autres marqueurs par rapport à la transfusion. Aussi, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est autour des déplacements. La zone n'a pas les moyens de déplacement. C'est avec les transports, les motos et les autres moyens de déplacement que nous sollicitons pour atteindre ces aides de santé qui sont touchées. Il n'y a pas de moyens de déplacement là-dessus. Et surtout la grève qui amplifie la situation. La plupart de ces décès sont enregistrés dans les ménages et dans les structures privées. Avec la pauvreté de la population, c'est incassable. Avec l'accompagnement de la DPS, nous commençons déjà à maîtriser cette maladie.
Solidarité africaine pour une Afrique en faveur des personnes atteintes de l'albinisme est le thème autour duquel tournera le premier colloque africain sur l'albinisme que le panel chargé d'accompagner le mandat de la République démocratique du Congo à l'Union africaine organise du 19 au 20 octobre avec la participation de la MONUSCO. Il s'agira durant ces deux jours de faire un état des lieux sur la situation des personnes atteintes d'albinisme et de prendre des mesures urgentes pour combattre toutes les formes de discrimination auxquelles font objet cette catégorie des personnes. L'écoute d'envoi de ce colloque a été donnée ce mardi par le président Félix Tshisekedi. Jocelyn Poy signe ce reportage.
La situation des personnes atteintes d'albinisme est l'un des problèmes qui préoccupe les mandats de la RDC à l'Union africaine. Dans son allocution, Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a insisté sur les discriminations auxquelles fait face cette catégorie de la population, basée notamment sur le langage et les comportements de ceux qui critiquent les personnes atteintes d'albinisme.
Le langage que nous utilisons lorsque nous parlons d'albinisme, il y a aussi un travail à faire dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos cercles pour bannir les mots et expressions dégradantes, discriminatoires. Apprenons à nos enfants, à nos frères et sœurs, à nos collègues, les mots humains, les mots dignes, respectueux, qui nous unissent.
Le professeur Alphonse Ntumba Luaba, coordonnateur du panel, chargé d'accompagner la mandature de la RDC à l'Union africaine, a, quant à lui, rassuré que l'Afrique restera au cœur des préoccupations du chef de l'État.
Le chef de l'État lui-même s'est engagé au-delà de la présidence en exercice de l'Union africaine qui va prendre fin bientôt. Mais l'Afrique reste dans la tête, au cœur des préoccupations du chef de l'État. Que dis-je, la tête dans le cœur du chef de l'État?
Signalons que cette première journée a connu la participation de la République du Congo, du Kenya, de la MONUSCO et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Sud Kivu, à présent, l'ambassadrice des bonnes volontés des Nations Unies séjourne dans cette province depuis hier lundi. Sarah Zaid est venue en tant que conseillère spéciale du programme alimentaire mondial PAM pour la santé de la mère, de l'enfant et de la nutrition. C'est à ce titre qu'elle visite aux côtés du représentant du PAM en RDC quelques structures qui bénéficient des actions de l'agence onusienne dans le Sud Kivu. Les détails avec Cynthia Bachizi.
Jambo! Jambo! Jina lango Sara. And we are here to help you. Tuko hapa tubasaidie jinsi inawezekana juu ya kusaidia jamaa yenu kuanzia kubebe na kuanzia kunyipeke sante yenu.
Minova, groupement de Bouzi, centre de santé de Bulinga. Le grand défi ici est la malnutrition qui touche plus particulièrement les enfants de moins de 5 ans. C'est ainsi que le PAM fournit des intrants alimentaires à ses enfants vulnérables. Difficile de comprendre la malnutrition dans cette région où abondent les terres fertiles. Mais ce sont les conflits armés qui ont perturbé les familles, d'après le médecin-chef de la zone de santé de Minova, Dr Laville.
Vous savez, c'est une zone de santé qui a connu des conflits. Il y a beaucoup de déplacés qui ont abandonné leurs champs et qui se sont maintenant intensés au niveau des grands centres.
En outre, des cours d'alphabétisation sont également organisés pour les agriculteurs. Au-delà de cet appui d'urgence, Francis Béré, chef du PAM au Sud Kivu, explique que la pérennisation des actions du PAM dépendra surtout du changement des mentalités au sein de la population. Ce projet est mis en œuvre dans le Nord Kivu également. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Parlons présentement de ce vœu des catholiques dans le diocèse de Butembo-Béni, 19 octobre 2012, 19 octobre 2021, 9 ans pratiquement depuis que 3 prêtres de l'église catholique du diocèse de Butembo-Béni ont été emmenés vers une destination inconnue par des hommes porteurs d'armes. Pour la société civile ainsi que toute la population du secteur Benimbao qui garde encore espoir de revoir leur berger, le gouvernement ainsi que les autorités militaires doivent les aider à livrer les informations sur l'existence ou pas de leur serviteur. Marc Marofimbo pour des précisions.
Il s'agit de Jean-Pierre Ndoulani, Anselme Wasukundi et Edmond Kissou, tous pères assomptionnistes de la paroisse Notre-Dame des pauvres de Mbao en territoire de Béni, kidnappés en date du 19 octobre 2012. Depuis, aucune information sur leur existence, comme s'interroge la société civile du secteur de Béni Mbao par son président Georges Katembo Kibaya.
La société civile, la journée d'aujourd'hui, se pose la question, est-il possible une disparition de nos prêtres le vent durant sans une information de leur existence? Maintenant, la journée d'aujourd'hui, il y a eu une messe de consolation qui nous donne l'espoir. Si nos prêtres sont vivants, nous le verrons. Nous avons étudié aussi le pardon. Ceux qui avaient enlevé ces prêtres, ils changent de comportement.
Nos efforts pour avoir la réaction des responsables catholiques du diocèse Boutembo-Béni sur cette triste mémoire n'ont pas abouti. Notons qu'une messe dite de paix a été célébrée en mémoire de ces pères ce mardi dans la paroisse catholique de Mbao, où des milliers de chrétiens catholiques ont prié pour le retour de la paix dans la région de Béni. Béni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La marine royale marocaine a secouru 310 migrants, majorité originaire d'Afrique subsaharienne, entre le 16 et le 18 octobre au large des côtes du Maroc. Parmi ces migrants clandestins qui avaient pris place à bord d'embarcations pneumatiques sur des kayaks ou des jet skis, figuraient 23 femmes et 9 mineurs. Ils ont été pris en charge par la marine et ramenés sains et saufs à terre avant d'être remis à la gendarmerie royale pour les procédures d'usage. L'ONU se dit préoccupée par la situation à Eswatini. Antonio Guterres a exhorté le gouvernement à veiller à ce que les forces de sécurité agissent conformément aux normes internationales en matière des droits humains. Les autorités ont fermé les écoles après que les élèves ont rejoint les manifestations de la société civile qui continue d'appeler à plus de liberté et de démocratie. Les transports publics ont été ralentis par les manifestations et la police est accusée d'avoir réprimé au mois de juin et juillet dernier des protestations. Du même ordre, 28 personnes auraient été tuées.
L'invité.
À l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales le 15 octobre et de la Journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre dernier en Bandaka, le Réseau national des associations des femmes rurales a organisé une réflexion sur la nutrition. C'était au regard du nombre élevé des cas enregistrés dans la ville et plusieurs localités périphériques. Madame Colette, qui est vice-présidente du Rien à faire Équateur, revient sur la nécessité de combattre la malnutrition par une alimentation équilibrée à base des produits locaux. Elle s'entretient avec Paul-Richard Malingela.
Madame Colette Ekia, le 15 c'était la journée dédiée aux femmes rurales, le 16 la journée mondiale de l'alimentation. Qu'est-ce qui nous a poussé à organiser cette cérémonie?
Oui, en tout cas en tant que réseau des associations des femmes rurales, ces deux journées-là ne peuvent pas passer inaperçues. Par rapport à la journée internationale dédiée à la femme rurale, comme nous sommes là et que nous sommes une grande association des femmes rurales, nous ne pouvons que la célébrer. Et nous avons passé comme le thème de l'année, demande à la femme rurale de cultiver une bonne nourriture pour les enfants. Nous avons pensé à célébrer ça à la journée internationale de l'alimentation pour que ça reflète un peu cette réalité-là. Et cette célébration a consisté à recueillir les produits de nos champs, de notre élevage et préparer pour faire une démonstration culinaire. Et puis, nous avons aussi invité les enfants malnutris pour enseigner à leurs parents comment ils peuvent les prendre en charge, quelle nourriture elles peuvent donner à ces enfants-là.
Mais ce qui nous a frappé, c'est que parmi les invités d'honneur, nous avons vu qu'il y avait des orphelins, les enfants qui sont abandonnés. Pourquoi avez-vous pensé à les associer à cette célébration?
Oui, nous avons pensé à les inviter parce que la journée d'ailleurs, c'est la journée de l'alimentation. Et qui dit alimentation, nous voulons que pour cette alimentation, c'est pour que la personne doit être en bonne santé. Et nous avons trouvé que ces enfants-là n'étaient pas en bonne santé. On a eu à repérer quelques enfants qu'on a trouvé qui n'étaient pas en bonne santé. C'est ainsi qu'on les a invités pour instruire à leurs parents comment ils doivent les prendre en charge, quelle nourriture ils doivent donner à leurs enfants. Voilà pourquoi on les a invités et on leur a enseigné comment nourrir leurs enfants en utilisant les 4 étoiles de l'alimentation. Les enfants doivent manger les aliments de base, de renforcement, comme les chikwangs, les bananes, les riz. Et puis, ils doivent manger des légumes, légumineuses et les aliments à protéines animales comme poisson et viande. Les fruits ne peuvent pas aussi manquer. C'est ce que nous avons enseigné aujourd'hui à ces parents-là. Voilà, on a pensé à eux parce qu'on a trouvé que ces enfants n'étaient pas vraiment en bonne santé et que leurs parents devaient avoir connaissance de ce que nous, on a.
Il y a un paradoxe que nous sommes en train de vivre dans notre province de l'Équateur, province à vocation agricole. Mais comment expliquer qu'il y a aussi des cas assez élevés de malnutrition?
Paradoxe, oui, on peut le dire comme ça. Mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a invité les parents de ces enfants-là malnutris. Parce que c'est une province à vocation agricole. Il y a à manger, mais c'est question seulement que les parents sachent au moins comment nourrir leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous importe, ça vient de Kinshasa, on appelle ça des goûts, des kips, des onza, tout ça là. Un parent qui prépare par exemple des légumes, Mais ces histoires-là de la coloration pensent que les enfants ont bien mangé. Or, ce n'est pas ça le cas. C'est ainsi qu'on a invité ses parents et je crois que ses parents ont bien capitalisé les enseignements d'aujourd'hui et ils vont leur mettre en pratique.
Madame, pour terminer, quel est le message particulier que vous adressez à tous les parents, malgré toutes les potentialités alimentaires que nous avons, mais n'arrivent pas à bien nourrir leurs enfants? Quel est le message particulier que vous adressez et aux femmes rurales et à la population en général en ce qui concerne l'alimentation?
Le message que je peux passer à toutes les femmes, que ce soit les femmes rurales et toute autre femme, par rapport à l'alimentation, c'est d'éviter de consommer des choses qui sont surnaturelles, si je peux dire. C'est-à-dire de consommer naturel.
Consommer
et,
bio.
Oui, il faut consommer bio, c'est ça. Il faut consommer bio et que chaque parent, parce que comme si je me réfère toujours à notre thème de l'année, c'est-à-dire les femmes cultivent une bonne nourriture pour toutes et pour tous. C'est-à-dire dans chaque parcelle, dans chaque ménage, on ne peut pas manquer un jardin ou un petit élevage pour nourrir les enfants. C'est-à-dire le message que je peux passer à tous les parents de la province de l'Équateur et de la ville de Mbandaka en particulier.
Comment de la RDC.
Et de la RDC, oui, de la RDC, que les parents, c'est-à-dire dans chaque ménage, on ne peut pas manquer un petit élevage, on ne peut pas manquer un petit jardin pour nourrir sa famille bio, comme nous disons.
Madame Colette Ekia, vice-présidente du RENAFER Équateur, merci.
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Et voilà qui met fin à cette édition du journal Vespérard sur Radio Okapi. Merci de l'avoir écoutée.